VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Crise burundaise, la Belgique est prête à participer à une force d'interposition au Burundi, affirme le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Déclaration faite alors que le dialogue inter-burundais brièvement relancé fin décembre est au point mort et que l'Union africaine a renoncé lors de son sommet à Addis Abeba fin janvier à déployer au Burundi la mission africaine de prévention et protection Maprobu qu'elle avait envisagée. On souhaite vraiment pouvoir protéger la population. Il y a trop de violence aujourd'hui au Burundi et trop peu de dialogue, a souligné le chef de la diplomatie belge dans la nuit de mercredi à jeudi. RDC, le procès de Germain Katanga a débuté hier à Kinshasa. L'ancien chef rebelle a comparu avec 6 co-accusé devant la haute cour militaire. Les avocats de la défense récusent ce nouveau procès au motif que la justice internationale a tranché dans cette affaire. On écoute Maître Peter Ngomon.
Au regard des documents à notre possession, notamment les différentes ordonnances de la CPI, et il y a notamment un accord ad hoc que le gouvernement aille signer avec la CPI, dans lequel accord il est dit ceci, que Germain Katanga ne pouvait plus être poursuivi en RDC pour tous les actes commis antérieurement à son transfert à la CPI. Tous les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont antérieurs à son transfert à la CPI. Partant des dispositions de l'article 215 de la Constitution qui dit que une fois signé un traité international a une valeur supérieure à notre loi. Nous nous retrouvons devant deux personnes de droit international. La RDC, représentée par le ministre de la Justice, et la CPI, représentée par son président. Et cela, conformément aux dispositions de l'article 108 du statut de Rome, c'est-à-dire ne plus poursuivre Germain Katanga.
Maître Peter Ngomon, des propos recueillis par nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont appelés aux urnes le 20 mars 2016 prochain pour le premier tour du scrutin présidentiel. L'opposition qui avait boycotté le référendum pour le changement de la Constitution et vivement contesté la modification du calendrier électoral a finalement décidé de participer aux élections. Pourquoi une telle décision ? On écoute les explications de Pascal Sati Mabiala, secrétaire général de l'UPADS, ancien membre du Front pour l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD.
Nous allons passer à l'élection présidentielle. Nous allons redoubler de vigilance. Nous allons demander aux nôtres d'être présents dans les bureaux de vote. Et si ce n'est pas pour éliminer totalement la fraude, nous voulons l'atténuer autant que possible. Nous avons fait de grandes mobilisations pendant la campagne référendaire à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo, à Dolisie, la troisième ville du Congo, ici à Brazzaville, la capitale. Nous avons fait de grandes mobilisations, de grandes meetings. Ensuite, nous avons réussi à boycotter le référendum où à peine 10% sont allés voter. Si nous pouvons capitaliser justement ce rejet actuel, faute d'avoir réussi à arrêter le processus de M. Sassou, nous pouvons, avec le peuple congolais, nous pensons l'obtenir par la voie des urnes, plutôt que de prendre la rue, comme nous l'avons fait.
Pascal Tsati Mabiala, secrétaire général de l'UPADS, ancien membre du Front pour l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD. En Centrafrique, le sous-préfet et le maire de Baboua dans le nord-ouest du pays, enlevés depuis plus de 7 mois par des hommes armés, sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Le gouvernement de transition a mis en place un comité de suivi des otages en vue de mener des négociations pour leur libération. Pour l'instant, les otages sont en vie et bien traités, a indiqué le préfet de la Nana Mambéré, Frédéric Wagonda, joint par Félix Yepassi Zembrou.
Nos otages sont bien portants, sont bien traités par leurs ravisseurs.
Et qui sont ces ravisseurs, monsieur le préfet ?
Ils sont en vie. Bon, vous savez, dans des genres de négociations, j'ai toujours privilégié l'anonymat. On se réserve parce que moindre déclaration, ça pourrait capoter toute négociation qui est en cours. Et je pourrais aussi vous informer que le gouvernement a franchi un pas par la mise en place d'un comité de suivi des otages de Baboua. Et les membres de ce comité sont déjà actifs et je pense que les choses évoluent vraiment. Je pourrais vous rassurer très positivement.
présent.
Vous dites qu'ils sont en vie, qu'ils sont bien traités. Avez-vous donc eu l'occasion d'entrer directement en contact avec eux?
Bon, vous savez, pour entrer en contact avec ces ravisseurs, ils sont dans une zone où il n'y a pas le réseau téléphonique. Mais par contre, pour les gens, il faudrait que le suraccord de leur ravisseur avance. Ils quittent d'abord la zone où ils sont pour retrouver la zone des réseaux. Bon, mais là, ça relève directement de la vie des ravisseurs, monsieur le journaliste.
Quelles sont les revendications de ces ravisseurs, monsieur le préfet?
Les revendications, à mon avis, elles sont multiples. Vous savez, ce sont des gens qui ont mis beaucoup de temps en brousse et qui veulent vraiment aussi être libres comme nous. Et d'autres revendications matérielles sont là, mais je pense que le gouvernement est bel et bien en possession de ces revendications. Et je pense que le gouvernement est en train d'étudier, le gouvernement de transition se bat pour que tout soit dénié à la fois.
Frédéric Wagonda, préfet de l'Anana Mambéré en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Ouganda, la seule candidate à l'élection présidentielle de février ne se fait guère d'illusions sur ses chances de rivaliser avec le président ougandais Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans. Maureen Kialia, 41 ans, dénonce les méthodes du régime, dont y compris le recours à la force et à l'intimidation. Les tensions sont exacerbées à l'approche de cette élection dont le premier tour aura lieu le 18 février et pour laquelle M. Museveni, 71 ans, sera encore le grand favori pour obtenir un nouveau mandat de 5 ans face à 7 autres candidats. Et puis Djibouti s'achemine vers une élection présidentielle, mais les rassemblements sont formellement interdits depuis le 25 novembre 2015. En décembre, la police a même ouvert le feu sur des opposants pendant une réunion près de Djibouti. Le député d'opposition Saïd Hussein Roblé, qui est en même temps secrétaire général de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, a été blessé par balle. Finalement, il a pu sortir clandestinement de son pays pour aller se faire soigner en Europe. Saïd Hussein Roblé dénonce la dictature dans son pays.
Monsieur Hussein Roblé n'a jamais respecté la constitution du pays. Il a modifié clairement l'article qui le concernait en s'octroyant une présidence à vie. Tout le monde le sait. Cet accord-là, il a été signé entre l'opposition et le gouvernement, mais il est toujours ne respecte aucun accord, ni même la constitution du pays même.
Est-ce que des élections sont prévues dans très peu de temps ou bien?
Oui, des élections sont prévues en avril 2016. C'est des élections présidentielles. La dernière, elle a eu lieu en 2011, mais c'est toujours la même histoire. En 2011, il a fait passer un troisième mandat contre le rejet massif du peuple djiboutien. Et aujourd'hui, nous sommes en 4 mandats, un mandat que jamais le peuple djiboutien lui a octroyé. Sincèrement, ce n'est pas des élections, c'est toujours des mascarades.
Le député Saïd Hussein Roblé, secrétaire général de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Football africain maintenant, championnat d'Afrique des Nations 2016. La deuxième demi-finale aura lieu ce jeudi. Ce sera un choc 100% ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Hier, au stade Amahoro de Kigali, au Rwanda, les Léopards de la RDC et le CENI national n'ont pas pu se départager pendant le temps réglementaire. Avec un score final de 1-1, les Léopards l'ont emporté pendant les tirs au but. On écoute leur sélectionneur Florent Ibengue.
On avait prévu de mettre énormément de rythme, on ne l'a pas fait. Enfin, ils nous ont endormis, les Guinéens. Ils sont arrivés en mettant un faux rythme. Et nous, on est rentrés là-dedans alors qu'on avait prévu de mettre beaucoup de rythme. Et après, quand on rentre dans le faux rythme, c'est difficile après de rechanger. Donc voilà, ma voix a été perdue à la mi-temps. Je voulais qu'on les étouffe vraiment complètement et qu'on puisse justement, en les étouffant au milieu de terrain, repartir sur des contre-attaques. Mais maintenant, on a eu... on a aussi des belles opportunités, mais quand j'entends tout le monde, on dirait que notre équipe est super mature, mais on n'a que 5 matchs officiels. Cette équipe-là n'a que 5 matchs officiels avec des gamins qui sont là comme Mecha qui n'a que 20 ans. Donc si vous lui donnez un petit peu plus d'expérience, aujourd'hui il peut marquer 4 ou 5 buts, mais avec son inexpérience, nous aussi on l'a.
Maintenant, la réaction de Lapé Bangoura, entraîneur de la Guinée.
Quand vous faites match nul, ce n'est pas une défaite. Après, il faut un vainqueur. Il est désigné au tir au but. On sait que c'est une cruelle épreuve. Malheureusement, si elle nous avait souri lors de la rencontre contre la Zambie, aujourd'hui, elle ne nous a pas souri avec des jeunes joueurs face à une équipe beaucoup plus expérimentée. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Cette équipe du Sili local est venue ici pour apprendre des choses. En plus d'apprendre des choses, elle a fait des performances en arrivant en demi-finale. Donc voilà, ils vont continuer à travailler parce qu'en plus il y a un match pour le classement. Donc il y a encore de l'expérience à engranger à travers cette prochaine rencontre.
Voilà, c'était Lapé Bangoura, l'entraîneur de la Guinée. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.